se poser. C'est d'abord simplement s'asseoir sur un coussin ou sur une chaise, paisiblement, sans se poser de questions. Avant tout discours, la méditation est d'abord un geste d'une étonnante simplicité. S'asseoir, c'est ce qu'il y a de plus élémentaire. Il n'y a rien à réaliser, à construire. Et en même temps, c'est un véritable défi. En effet, il ne s'agit pas juste de ne plus être debout, mais de trouver une assise. Dans le langage courant, avoir une bonne assise signifie bien d'être bien établi dans sa vie, avoir confiance. Commencer par avoir une bonne assise en méditant permet de retrouver une droiture naturelle. La simplicité n'implique pas une absence de difficulté, mais plutôt le fait de réunir les conditions pour se dégager du superflu et toucher à l'essentiel, à ce qui nourrit la profondeur de notre existence. Méditer, c'est « nothing happened », enseigner Shugyam Trungpa, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien de spécial. Cela consiste à cultiver cette attitude du rien de spécial face à tout ce qui se présente à nous. Je suis traversée par des pensées plus ou moins saisissantes, des émotions plus ou moins intenses, mais je n'en fais pas une histoire. Au contraire, la méditation nous invite à cultiver un rapport de simplicité avec les événements, quels qu'ils soient. Joie, jalousie, extase, félicité, angoisse, désespoir. Par exemple, si je ressens un mal de dos et que j'éprouve de la colère contre ce mal de dos, je ne fais rien de spécial. Je reste là, dans ma posture d'assise, ouvert à ce qui est. C'est une attitude à la fois très simple et très radicale. S'ancrer dans le présent. La méditation consiste précisément à réapprivoiser le silence, le rien faire, en se donnant un moment où l'on se contente de se poser tel que l'on est, dans l'instant, où l'on consent à ne rien faire. Les premières fois, cela peut occasionner une légère panique qui se manifestera différemment selon l'histoire de chacun. Certains chercheront des prétextes pour se divertir, d'autres seront assaillis de pensées, d'autres encore pourront s'assoupir ou rêvasser. Ces obstacles qui viendront inévitablement s'interposer dans notre esprit, la méditation ne nous propose pas de les rejeter, de lutter à contre-courant, mais au contraire, de les accueillir tels qu'ils sont. Souvent, en pratiquant, nous nous engageons dans une gymnastique visant à nous permettre de dominer notre esprit, mais tout au contraire, abandonnons le souci de tout contrôler. C'est ce souci qui nous opprime. La méditation ne vise nullement à vider notre esprit, mais à l'apprivoiser, à ne plus lutter contre lui. Ainsi, comme ça a été mon cas et celui de tout le monde, lorsque l'on débute la pratique, notre première expérience tangible est généralement de nous sentir submergés par les pensées et de croire que la méditation ne fonctionne pas pour nous. Mais justement, pratiquer la méditation, c'est d'abord découvrir à quel point les pensées surgissent, indépendamment de notre volonté, et combien il est difficile de simplement rester présent. Contrairement à une idée reçue, la méditation ne consiste pas à faire le vide dans sa tête, à éliminer ses pensées. On pourrait même dire que le premier signe que l'on est bel et bien en train de méditer consiste précisément en une prise de conscience du mouvement de ses pensées. La méditation consiste à observer, être attentif, ouvert à nos pensées. La plupart du temps, nous prenons ces pensées très au sérieux, sans nous rendre compte qu'elles nous manipulent parfois. durant la pratique, au contraire, nous n'en faisons rien. Et nous percevons alors mieux leurs contours, leur tumulte. Les textes traditionnels appellent cette découverte voir la cascade. Que faire avec ces pensées? En méditant, notre esprit apprend à ne pas s'accrocher à certaines pensées ou à en rejeter d'autres, à ne pas juger ces pensées, pour simplement accueillir de manière ouverte et inconditionnelle tout ce qui survient. Dès lors que l'on accepte la cohue, le flux des pensées sans rien faire, nous n'avons plus de raison de paniquer. Notre esprit peut alors s'apaiser de lui-même pour laisser place au moment présent que l'on appréhende dans toute son ampleur. Paradoxalement, cet apaisement peut engendrer de la peur, car nous craignons parfois de rencontrer le silence quand l'agitation mentale cesse. Nous découvrons alors que le silence n'a rien d'effrayant, qu'il n'est pas vide comme nous l'imaginions, bien au contraire, il est vivant. Tout le décor où l'on est plongé sans le voir quand on est dans l'action nous apparaît soudain. On perçoit alors l'immensité de notre esprit, ses nombreux mouvements. Puis, si l'on se met à écouter le silence de la pièce où l'on médite, on perçoit une myriade de petits bruits qui nous avaient échappé auparavant. On découvre que le présent est ample, riche de détails que cette urgence, cette agitation mentale du quotidien nous faisait négliger. Au début, cela peut être inconfortable. Face à cette découverte, la tentation est grande de prendre la fuite pour conserver le confort de nos habitudes mentales, de nos croyances et de nos illusions. Ces dernières constituent une identité fixe que nous pensons nôtre, alors que ce n'est bien souvent qu'un masque déformant. Jusqu'à ce que l'on réalise que, paradoxalement, c'est souvent cette forme de confort auquel on s'accroche qui conditionne nos plus vives souffrances.